Bonjour à tous. Traverser les étendues désertiques du sud du Maroc à pied ou à dos de dromadaire. Approcher puis enjamber l'Atlas avant de mettre le cap sur l'Atlantique. Ce projet hors norme va rassembler une vingtaine d'artistes et de scientifiques. Ce drôle d'attelage a 3 mois devant lui. Il prend le départ demain depuis Fumsguide, à l'ouest de Zagora. On vous en parle dans la deuxième partie de l'émission. Mais on commence ce dimanche par parler cinéma. Le Festival National du Film, actuellement à Tanger, Alaeddine Algem, bonjour.
Bonjour.
Votre film, Le Miracle du Saint Inconnu, fait partie des 15 longs métrages en compétition. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici dans l'émission. Il a été présenté dans de nombreux festivals. C'est un peu la fin d'un long parcours qui se joue ces jours-ci à Tanger, avant l'accomplissement, la sortie dans les salles ici au Maroc. On en parle avec vous dans 2 minutes, le temps d'une petite respiration musicale. Vous n'avez rien contre la musique brésilienne ?
Pas du tout, allez-y.
Alors ça tombe bien. Voici Tokino et Vinicius. La chanson s'appelle Canto de Hosanna. Et là, Adine, on vous retrouve juste après.
O canto da mais difícil e mais misteriosa das deusas do candomblé baiano. Aquela que sabe tudo sobre as ervas, sobre a alquimia do amor. O homem que diz dor. Porque quem dá mesmo? O homem que diz vou. Porque quando foi já? O homem que diz sou. Porque quem é mesmo é? O homem que diz tô. Porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vou, que eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer, se é canto de Ossanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Qu'est-ce que c'est beau. Tokino et Vinicius, cette chanson Canto de Hosanna, un classique absolument magnifique. Alaeddine El Algem avec nous dans Bain de Culture pour nous parler de votre film en compétition actuellement à Tanger. La première fois que vous l'aviez présenté en festival, c'était à Cannes, pour la semaine de la critique, il avait fait l'ouverture. Et bon, ça c'était il y a 9 mois, depuis il a voyagé, et vous, avec lui, vous dites que vous aimez assister aux projections et guetter les réactions du public.
Oui, tout à fait. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, du point de vue d'auteur, réalisateur, que on fait une œuvre, ça fait des années qu'on l'a en tête, que au bout d'un moment on arrive à la mettre à l'écran, et puis il y a ce moment magique où on est là en train de la partager avec des gens. Et à ce moment-là, bah, le plaisir pour moi, c'est d'être dans la salle, d'essayer d'en profiter aussi autant que spectateur. Et puis, j'ai remarqué avec tous les voyages que je fais, tous les endroits où j'ai été, où j'ai pu montrer le film, que le public est pluriel et que d'une salle à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, les gens ne réagissent pas de la même manière et ne rigolent pas au même moment, ne rigolent pas de la même façon, adhèrent ou adhèrent moins à des moments particuliers dans le film, et c'est quelque chose d'assez fascinant à observer.
Donc ce film s'est baladé comme cela, de ville en ville, de culture en culture. Il est au Maroc, il a été présenté il y a quelque temps au Festival international du film de Marrakech. Maintenant c'est Tanger. Tanger, c'est le Festival national du film. Ça vous permet de vous inscrire résolument dans le paysage du cinéma marocain, peut-être pouvoir se comparer, se situer par rapport aux autres, la production nationale. Vous avez eu l'occasion de voir d'autres films en compétition cette année?
Non, pour le moment, j'ai vu que le mien. Donc,
D'accord. Vous n'avez pas vu ceux de vos concurrents.
non, bah, en même temps, le festival a commencé réellement hier. Donc, je pense, je sais pas si c'était le premier ou le deuxième film qui était programmé. Je pense que
C'était le
c'était le
deuxième
deuxième.
film hier.
Et dans la journée, j'avais un case study. Donc, c'était une étude de cas par rapport au chemin qu'a fait le film du coup, dans les ateliers professionnels. Du coup, j'étais pris toute la journée. Donc, j'ai pas pu voir d'autres films. Mais après, voilà, cette semaine, je vais essayer de découvrir d'autres films, de regarder d'autres films. Je suis là pour ça. Après, j'appelle pas ça vraiment des concurrences. Pour moi, c'est pas vraiment de la compétition. J'aime pas trop ce terme-là. Pour moi, un festival, c'est vrai qu'il y a une compétition parce qu'il y a un jury et qu'il y a des prix. Ça fait partie de la règle du jeu. Mais en réalité, ce qui est pour moi important quand je vais dans un festival, c'est de parler plus en termes de programmation, de sentir que son film fait partie d'une programmation, fait partie d'une sélection. Et là, en l'occurrence, on est au Festival National. Donc, il y a 14 films ou 15 films. Et du coup, l'idée, c'est de voir ce qu'a fait le Maroc pendant ces
Cette dernière année.
deux dernières années, parce qu'il y a des films qui ont été faits quand même il y a un peu plus qu'un an, donc ces deux dernières années. Et c'est juste ça, savoir situer plutôt le cinéma marocain.
Le vôtre de film, Le Miracle du Saint Inconnu, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, l'histoire se déroule un peu au milieu de nulle part. C'est une région désertique du sud du Maroc. On peut faire le pitch. Le tout premier plan, c'est un homme au volant d'une voiture hors d'âge, cette voiture cale. Il sort, il ouvre le coffre, il se saisit d'un sac. Ce sac est plein d'argent. Il escalade vite une butte. On comprend qu'il est traqué. Il enterre rapidement le sac. Il redescend. La police, en fait, était à ses trousses. La police l'arrête. Il est mis en prison. Et à sa sortie de prison, évidemment, la première chose qu'il doit faire, c'est récupérer son butin. Il retourne au même endroit. Si ce n'est que le paysage a un petit peu changé. En haut de cette butte, qui était complètement déserte, il n'y avait rien, il y a un marabout. Et au pied de cette butte et de ce marabout, il y a un petit village qui s'est constitué. Là, toute l'intrigue du film va se dérouler à cet endroit. Il y a une unité de lieu, de temps. C'est un petit microcosme que vous dépeignez.
Et tout à fait. En fait, c'est un huis clos dans le désert. C'est-à-dire, on est tout se déroule là-dedans, tout se déroule dans ce village-là, ou dans cette zone aride. Et les paysages, d'ailleurs, cette aridité-là devient un personnage dans le film. Et puis, tout se déroule là-dedans. C'est une micro-société qu'on observe. On se balade un peu dans ce village-là. On va voir différents personnages qui habitent ou qui se retrouvent aussi. Et chacun d'entre eux a sa propre histoire, son propre récit, et puis les petits récits vont s'imbriquer entre eux et puis vont donner place à un grand récit.
Ce sont des personnages un peu décalés, un peu excentriques, qui
Oui,
nous arrachent régulièrement quelques sourires.
c'est du burlesque, donc forcément ils sont un peu des archétypes de la société. Je grossis un peu les traits, c'est normal dans ce genre de film. Et il y a de l'humour. Mais de l'humour surtout qui se dégage par les situations elles-mêmes, pas par les personnages, pas par leur physique, mais pas trop par leur façon de jouer, parce qu'ils sont tous très très sobres, très neutres, ils sont beaucoup dans de la retenue, mais ils se retrouvent toujours dans des situations assez loufoques, assez cocasses, et l'humour surgit de là.
Les personnages sont humains, ils sont attendrissants. On vous a souvent, par rapport à ce film, votre premier film, renvoyé à l'univers de Buster Keaton. Il y a aussi des côtés western. Un, parce que ça se passe dans le désert et ça renvoie à ça. Puis deux, je sais pas, il y a la cavalerie qui arrive régulièrement. Il y a la gendarmerie. On la voit pas, mais on entend les sirènes régulièrement. C'est récurrent dans le film.
Alors, il y a un truc assez marrant avec ce film, c'est que depuis les premières phases d'écriture, le film était clairement un mélange de genres, un mélange de beaucoup de choses. Et du coup, dans l'industrie, on a toujours besoin de te mettre dans une case. Alors, au début, à chaque fois que j'avais un interlocuteur en face de moi, il cherchait à mettre le film dans une case. Alors, il disait, mais c'est quoi exactement? C'est une comédie? C'est une espèce de comédie, c'est de la comédie noire, c'est une espèce de western dans le désert. Et à chaque fois, je ne savais pas trop encore à l'époque bien définir le registre et le ton du film. Et puis, alors, j'avais souvent des gens qui cherchaient des références pour les aider à mettre le film dans une case. Alors, on me disait, oui, mais en lisant, moi, je trouve qu'il y a un petit côté comme ça, Buster Keaton. Je disais, oui, en effet, il y a, c'est une référence. Ils me disaient, mais il y a quand même un petit côté humour scandinave, un peu Aki Kaurismäki. Je disais, oui aussi. On me disait, mais il y a quand même du Elia Soleiman, alors du cinéma italien, les vieilles comédies de Monicelli, même les vieux Woody Allen, les films comique là comme Small Time Crooks ou des choses comme ça. Je disais oui, sauf qu'à la fin, tous ces mélanges-là n'avaient aucun sens. Tous ensemble, tu ne pouvais pas dire qu'un film ressemblait à tout ça. Et c'était ça un peu la particularité du projet déjà avant que ça ne soit un film. Puis quand le film est sorti, alors ce qui est marrant, c'est que d'un pays à l'autre, en fonction du distributeur, il y a des références qui changent. Donc par exemple, en France, il y a beaucoup de comparaisons à Kaurismäki et Elia Soleiman. Dans des pays plus dans les pays anglophones, on est plus dans du. Comment ça s'appelle? Dans les frères Coen. D'ailleurs, nous avait même la presse américaine avait appelé le film Fargo dans le désert. Ce que je trouvais ça assez rigolo.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on va de culture en culture, les gens ne réagissent pas forcément de la même manière, et puis les références diffèrent. Sur le côté Kaurismäki, je crois que c'est le journal Le Monde, au moment de la sortie de votre film pour Cannes, qui avait associé votre univers à votre film.
Oui, journal Le Monde, et je pense d'autres journaux aussi l'ont fait. Et puis oui, en effet, c'est que d'un pays à l'autre, les références changent, l'humour aussi change, la façon de lire, d'interpréter un film change. Puis moi, par exemple, j'ai été extrêmement marqué par deux choses. Un, c'est que dans les pays anglo-saxons, ils rigolent beaucoup plus qu'ailleurs, peut-être limite beaucoup plus qu'au Maroc, au film.
Ça riait pas mal hier soir au Maroc.
C'est vrai que ça riait pas mal, oui. Hier à Tanger, oui. Alors Tanger rigole plus
que Marrakech. Il y a peut-être, c'est peut-être plus un public marocain pour le coup Tanger. Non, je vous dis ça, Marrakech, les salles étaient pleines cette année et c'était un public beaucoup marrakechi aussi. Oui,
Marrakech, c'était aussi. Ils ont beaucoup rigolé aussi, mais c'est vrai que c'est un public peut-être un peu plus mélangé à Marrakech. Il y a beaucoup de Français à Marrakech.
Il y a beaucoup d'étrangers aussi, ouais.
On a fait aussi une projection au cinéma Colisée, et là vraiment c'était public marrakchi, beaucoup beaucoup de jeunes. Ça c'est aussi quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, le film parle beaucoup aux jeunes, donc il y a énormément de jeunes qui à chaque projet qu'on fait au Maroc, ça je trouve ça beau.
On marque une nouvelle pause musicale dans Bain de Culture, un mash-up signé Angèle et Aladdine. On vous retrouve dans quelques instants.
I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. That look you give, I got, I wanna see looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue. Je fais du satin et j'endors plus. Viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. You know, it seems like you're going somewhere better than you've been before. I go to sleep and I dream all the night. Could be
Angèle dans Bain de Culture. Aladdin Algem, votre film Le Miracle du Saint Inconnu. Une galerie de personnages, un personnage central, un braqueur, un voleur incarné par Younes Bouab. Mais tout autour de lui, vous l'avez dit, plusieurs personnages importants qui existent aussi réellement. Le casting, il a été compliqué, il s'est fait facilement.
Le casting a pris beaucoup de temps. Pour moi, c'est une des étapes les plus importantes de la fabrication d'un film. Donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est fait sur plusieurs étapes. Alors, c'était un peu différent d'un acteur à l'autre. Et ce qui était particulier, c'est que c'est un film choral. Donc, il y a beaucoup de personnages importants. Enfin, ils sont 6 ou 7 déjà, personnages principaux, qui ont un ton de film assez équilibré entre eux. Et c'était important que, pour moi, je savais dès le départ que c'était important que et les acteurs principaux et les acteurs secondaires et les tout petits rôles, que tous soient bien castés et qu'ils puissent bien porter le film, parce que autrement, enfin, l'absurdité des situations ne marcherait pas, parce qu'il fallait quand même qu'on arrive à y croire un minimum. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de temps déjà de casting pour les personnages principaux, pour les personnages secondaires, et puis aussi pour les tout petits personnages et pour les figurants et les figurantes. Dans le film, vous qui l'avez vu, je pense que vous vous rappelez des vieilles dames, des vieilles patientes qui vont tout le temps chez le médecin. Ben, il y en a 4.
Elles ne vont pas que chez le médecin, elles vont aussi au hammam. Ouais. Et quand elles ont terminé le hammam, elles vont chez le médecin. C'est leur sortie.
Elles vont chez la hammam une fois par semaine et les autres jours chez le médecin. Et par exemple, elles, ce n'est pas du tout des actrices, elles n'ont jamais joué, elles n'ont jamais été devant une caméra. Et j'avais besoin de prendre des gens qui soient aussi spontanés, naïfs devant une caméra, qui peuvent ramener quelque chose de plus minéral, de plus naturel et spontané. Et du coup, pour les 5 dames qu'il y a dans le film, on en a casté 90.
Donc, d'accord. Sur place, dans cette région, ça s'est fait dans la région de Marrakech, désert d'Agafay.
C'est Agafay, oui, c'est 50 minutes de Marrakech. Mm-hmm. Oui. Voilà, on a pris des gens du village, beaucoup de gens du village voisin, et d'autres de la sortie de Marrakech, oui.
Donc Younes Bouab, pour le personnage principal, il a un complice pour récupérer son boutin, mais son complice ne lui est pas d'un grand secours, il ne brille pas vraiment par ses initiatives. Face à cela, le personnage principal est toujours dans la retenue, dans une rage contenue. Vous le disiez tout à l'heure, vous le mentionnez, c'est un film où votre consigne, ça a été surtout on ne surjoue pas, les situations en elles-mêmes suffisent, et les choses vont se comprendre d'elles-mêmes. Enfin, c'est des effets comiques, ils vont naître des situations. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, c'est ça? Ouais.
Ben, en fait, c'est là où c'est vraiment dans une tradition de burlesque. C'est-à-dire que si vous regardez tous les films de Buster Keaton, il a toujours la même tête, il est assez inexpressif dans son visage. Et en réalité, c'est un cinéma qui repose beaucoup plus sur une narration visuelle, sur une narration faite de d'enchaînement d'actions et de situations, beaucoup plus que par des acteurs qui extériorisent des choses. Alors bien évidemment, ils sont porteurs de certaines émotions, parce que sinon on n'y croirait pas du tout. Ils sont quand même humanisés dans leur manière de réagir et d'interagir, mais le gros de la narration est quand même assez visuel et assez porté par les actions elles-mêmes plutôt que par les expressions des acteurs. Et tous les déplacements, en fait, étaient assez découpés, assez chorégraphiés presque. Il y a toujours dans chaque scène, il y a toujours dans chaque plan, il y a toujours 2-3 temps. Donc le premier temps, tu restes là, tu regardes, tu comptes 5 secondes. Le deuxième, tu tournes la tête à gauche et tu dis ta réplique, tu marques un temps de 2 secondes. Et du coup, pour les acteurs, c'était pas non plus facile. Il fallait apprendre à jouer de cette manière-là et apprendre à jouer en comptant, enfin en ayant le chrono en tête, en disant voilà, là je suis à 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, là je peux prendre une respiration, là je m'arrête, et puis beaucoup de silence, beaucoup de regards qu'il fallait aussi intégrer dans le jeu.
Puis on est dans ce huis clos, vous le disiez, hein, c'est un désert, donc en fait il y a quand même un paysage minéral autour qui est assez figé, et puis donc des humains qui vont se mettre en mouvement, mais ça se joue aussi à des moments au niveau du regard. Effectivement, la personne est très statique, mais c'est vraiment les expressions comme ça, un film du visage. Pour le casting, Younes Bouab, vous le connaissez personnellement depuis des années, vous lui aviez donné le rôle il y a un bon moment, avant, un an avant le tournage je crois.
Oui, Younes Bouab était le premier acteur qui a été confirmé. Donc je pense que c'était exactement un an avant le tournage. Je pense un petit peu même plus. Je l'avais vu l'été 2007. On a tourné en novembre, octobre-novembre 2018. J'étais déjà très 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 avancé dans l'écriture et à un moment donné, en fait, j'avais besoin de visualiser les personnages, surtout le personnage principal. Et Younes Bouab, je le connaissais déjà de longue date, mais on se connaissait pas non plus très très bien. Et puis on avait travaillé ensemble. Je l'avais pas dirigé, mais on s'était retrouvé sur un tournage italien où il jouait. Et moi, je travaillais dans ce tournage-là. Et du coup, je l'avais un peu connu et la réalisatrice qui était italienne, qui ne parlait pas bien évidemment un mot d'arabe, m'avait demandé si je pouvais voir ou répéter la scène que jouait Younes Bouab avec Nadia Kounda en arabe. Et du coup, j'étais là, j'étais dans une position presque de réalisateur, même si je ne réalisais pas et je ne dirigeais pas, mais j'étais dans une position où j'observais des acteurs jouer. Et à ce moment-là, je me rappelle, voilà, j'avais ressenti quelque chose, j'avais trouvé quelque chose dans son physique, quelque chose qu'il dégageait, qui était assez proche de ce que je cherchais. Et puis pour ce film-là en particulier, c'est un film où il n'y a pas du tout de psychologie de personnage, il n'y a pas du tout de backstory. Donc on fonctionne beaucoup sur des archétypes et on est beaucoup dans, voilà, le voleur, c'est le voleur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a volé, on ne sait pas d'où il vient. Mais on sait qu'il est là. Le médecin, c'est le médecin. Il vient d'arriver. Et à chaque fois, j'avais besoin juste de donner le minimum d'informations nécessaires à la compréhension des scènes et du récit. Et en même temps, il fallait donner quand même deux, trois petites choses pour pas que le spectateur soit perdu et qu'il puisse suivre l'histoire. Et du coup, pour le personnage de Younes Bouab, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse. Pour qui on puisse ressentir de l'empathie assez rapidement et quelqu'un qui semble aussi étranger à ce milieu où il va se retrouver. Du coup, quelqu'un qui soit assez urbain, mais en même temps qui fasse assez voyou et qui ait quelque chose de doux dans son regard quand même pour qu'on puisse avoir cette empathie-là. Du coup, je trouvais que Younes portait ça naturellement. Tout comme je trouvais que Anas Elbaz, qui joue le rôle du médecin, où j'avais besoin d'un jeune médecin qui arrive de la ville et qui se retrouve dans ce coin paumé, et sans qu'on puisse raconter trop d'où il vient, pourquoi il vient, qu'est-ce qui se passe. Et je trouvais qu'Anas, il avait vraiment quelque chose à la fois de comique, même si je ne l'ai jamais vu jouer dans un registre comique, mais il avait aussi quelque chose de très urbain. Quand il arrive là, tu te dis qu'est-ce qu'il fout ici? Et du coup, tout le casting était aussi fait en fonction de ça, ce que dégagent les acteurs naturellement, et ce que je peux utiliser de ça pour passer deux, trois informations, deux, trois émotions sans avoir besoin à les installer.
Cher Aladine, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de la cérémonie des Césars en France, le cinéma français en pleine tempête, la démission de l'Académie des Césars, ses membres accusés de ne pas représenter la diversité de la société, la place des femmes en question. Vous, dans votre film, les personnages, que des hommes? Pas une femme.
Bah écoute, moi je pense que c'est différent, c'est-à-dire la place de la femme dans le cinéma ou dans n'importe quel métier ou n'importe quel art. Je pense que c'est quelque chose, c'est un débat tout à fait logique et que les femmes comme les hommes devraient bénéficier de chances égalitaires. Alors la présence ou l'absence de personnages féminins dans un film, c'est autre chose pour moi. Là, on est clairement dans un. Le film se déroule dans un monde assez dur, assez rude, assez décalé, absurde. Et pour moi, c'est un monde d'hommes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes dans le film. Il y a les vieilles dames, il y a les patientes, il y a toute la figuration. Mais pour moi, c'est clairement un monde assez masculin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il tourne pas rond, ce monde-là. Et j'arrivais pas trop à voir des personnages féminins là-dedans parce que je trouve que la femme est plus raisonnable que l'homme. Ça, c'est un truc personnel, hein, c'est un ressenti personnel. Mais je trouve que les femmes sont beaucoup plus raisonnables que les hommes, que les hommes sont beaucoup plus fous et capables de plus de folie et d'absurdité. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de femme là-dedans. Je trouvais que mettre un personnage de femme aurait ramené de la douceur, aurait ramené quelque chose de plus raisonnable, de plus logique. Alors que ce côté rude, qui est ce côté rude aussi de ces paysages-là, s'inscrivait très bien dans un monde d'hommes. Mais demain, si ça se trouve, je ferai un film où il n'y aurait que des femmes, il n'y aurait pas de place d'hommes ou l'inverse. Enfin, ce n'est pas une question que je prends comme ça. Après, pour la question des Césars, pour la question de la diversité, au cinéma français et tout, ça, je trouve que c'est vraiment des vraies questions et un vrai débat.
On a commencé cet entretien tout chousse, on a tout de suite parlé du film. Je vous ai pas présenté, vous avez une trentaine d'années, vous portez un jean, des baskets sympas aux pieds. Je préférais celles d'hier soir, mais sont pas mal aussi celles-là. Des cheveux crépus, une coupe afro, le regard franc. Vous êtes né à Rabat, des études de cinéma à l'ESSAV, l'école supérieure supérieure des arts visuels de Marrakech. Vous avez ensuite fait une école supérieure aussi en Belgique. Plusieurs courts-métrages, donc ce long métrage, Le Miracle du Saint Inconnu, que vous présentez de festival en festival. Un marathon entamé il y a 9 mois à Cannes et qui s'achève donc ces jours-ci à Tanger. La sortie au Maroc, c'est pour quand ?
Ce mois de mars. Je n'ai pas le jour exact. En fait, je pense que la production le sait, mais j'ai dû oublier quel était le jour exact. Mais c'est autour du 20 à 22 mars, un truc comme ça.
Et puis la suite, des projets déjà ? Un prochain film ? Un film peut-être qu'avec des femmes ?
Écoute, il y a un film où il y a un personnage principal de femme que je suis en train d'écrire. je suis en train d'écrire, voilà, il est encore en écriture. Et il y a une série où il y a des hommes, des femmes, il y a un peu tout.
Aladine Algem avec nous dans Bain de Culture, merci d'être venu jusqu'à nous. Dans la deuxième partie, retour sur la cérémonie des Césars, donc mouvementée cette année en France, une caravane culturelle durant 3 mois dans le sud du Maroc. Et puis des artistes plasticiens originaires de la région du fleuve Congo, actuellement à Jardin Rouge dans la région de Marrakech. À tout de suite.
Avec David Labo.
Le lancement demain matin dans le sud du Maroc d'un projet exceptionnel. Des artistes et des scientifiques vont marcher durant 3 mois ensemble, des confins du désert jusqu'à l'océan Atlantique, une caravane culturelle à la rencontre des populations des lieux traversés. 5 artistes originaires du fleuve Congo en création dans la région de Marrakech, ça se passe à Jardin Rouge. Et puis quand la grande famille du cinéma en France se déchire au grand jour d'émissions en bloc de l'Académie des Césars, accusée de ne pas refléter la diversité de la société, de ne pas défendre suffisamment les droits des femmes, même pas mal, les 4000 votants ont choisi quand même Roman Polanski comme meilleur réalisateur, alors qu'à l'extérieur de la salle, des manifestantes conspuaient son nom. Le cinéma français en pleine crise de nerfs, on en parle dans 3 minutes avec Camille Marigot. Pour l'instant, voici Clara Luciani.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide et plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement seule, celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regarde, regarde.
du cinéma français, elle se déroulait vendredi à Paris, la 45e cérémonie des Césars, sur laquelle on revient ce matin avec vous, Camille Marigaud. Bonjour.
Bonjour David.
Alors on va parler du palmarès, bien évidemment, mais difficile de commencer sans évoquer un prix en particulier, et qui a fait beaucoup parler de lui depuis 48 heures, ce César reçu par Roman Polanski.
Oui, le réalisateur franco-polonais accusé de viol et qui cristallisait à lui seul toutes les tensions autour de cette cérémonie marquée, comme l'an dernier, par les révélations de scandales sexuels dans le milieu du cinéma, dans le sillage du mouvement MeToo. D'ailleurs, autour de la salle Pleyel où se déroulait la cérémonie, de nombreuses personnes manifestaient contre le réalisateur. Et c'est dire, hein, le film de Roman Polanski, J'accuse, autour de l'affaire Dreyfus, était nommé dans 12 catégories. Il a remporté 3 Césars, dont celui de la meilleure réalisation, à la surprise générale, hein, disons-le. Alors, il y a eu les applaudissements polis et puis la sortie fracassante de l'actrice Adèle Haenel, elle-même victime de violences sexuelles dans son enfance et figure du mouvement MeToo en France. Une sortie même de toute l'équipe du film pour lequel elle était nommée Portrait d'une jeune fille en feu.
Qui est un petit peu le grand oublié de ce palmarès, une dizaine de nominations puis à la fin seulement un César, peut-être qu'ils étaient aussi déçus pour cela. Les voix se multiplient depuis pour dénoncer ce prix décerné au réalisateur du Pianiste, Roman Polanski, et son équipe qui avaient décidé de toute façon de appel de ne pas assister à cette cérémonie. Eux sont tous venus sur scène pour récupérer leur César, celui qui a été attribué au Misérable, sacré meilleur film cette année.
Un film lui aussi nommé 12 fois, l'histoire d'une bavure policière dans un quartier de Seine-Saint-Denis. On écoute le réalisateur Ladjili qui a voulu rappeler le sens de son film.
Nous vivons dans un pays blessé et c'est la pauvreté qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes, il est temps de s'unir. Il est temps de montrer qu'on fait tous partie du même pays. La France est notre pays. Faisons-en un grand pays.
Ladjili, le réalisateur des Misérables, qui repart donc avec 4 récompenses. Au total, meilleur film, on vient de le dire, mais aussi meilleur espoir masculin, montage et le César du public.
Et puis Camille, un film dont on a parlé ici sur Medi 1, il est reparti avec 2 prix, Papicha de Mounia Medour.
Oui, l'histoire de ces jeunes Algériennes pendant la décennie noire a reçu le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin, remis à Lina Khoudri, la jeune actrice qui a rendu hommage dans son discours à l'une des figures du Irak algérien.
Je veux juste partager avec vous quelques mots d'une grande révolutionnaire de notre monde, Jamila Bouyered, qui nous dit « Il vous appartient à vous les artistes qui mettez de la lumière dans l'obscurité de notre quotidien. Il vous appartient à vous tous de dessiner votre avenir et de donner corps à vos rêves. Ne les laissez pas pervertir la noblesse de votre combat. Ne les laissez pas voler votre victoire. Merci. »
Voilà, Lina Khoudri, meilleur espoir féminin pour ce film, donc Papicha. Il y a eu des moments plus légers que ceux dont on vient de parler, Camille, notamment la prestation de Benjamin Laverne de la Comédie Française, qui a fait une espèce de show complètement incroyable, spectacle de magie, c'était quand même embarré. Et puis l'entrée en matière aussi très réussie, l'humoriste Florence Foresti en maîtresse de cérémonie, mais aussi cette leçon de second degré donnée par la comédienne Emmanuelle De Vos.
Oui, l'actrice remettait le César du meilleur second rôle féminin. Elle-même a remporté 2 Césars sur 6 nominations dans sa carrière. Elle sait donc ce que c'est que de ne pas gagner un César, ou plutôt de perdre un César. On l'écoute.
Bien sûr, ce soir, il n'y aura qu'une lauréate qui repartira heureuse et chamboulée. Mais pour les autres, croyez-en mon expérience en la matière, ça va être horrible. C'est un véritable échec dans la vie d'une femme. On se sent sali, moche, abandonné. Perdre un César, c'est pénible sur le moment et c'est pire dans les jours qui suivent. C'est une baisse signifiante de la libido, mais chez votre partenaire. Perdre un César, c'est lire du mépris dans les yeux de ses enfants, de l'inquiétude dans les yeux de son agent, et de l'ambition dans les yeux de son chirurgien plastique. Mais je tenais à dire aux merveilleuses actrices qui sont nommées ce soir, si vous ne l'avez pas, cela ne veut pas dire que vous êtes moins bonne. Cela veut dire que vous êtes finie.
Excellent, excellent.
Enfin, on peut citer également David à Anaïs de Moustier, reparti avec le César de la meilleure actrice dans Alice et le maire. Et puis Roche Dizem, un sacré lui, meilleur acteur pour Roubaix, une lumière.
Et puis n'oublions pas, hors de l'Hexagone, le César du meilleur film étranger, attribué sans surprise à Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Parasite qui avait déjà eu l'Oscar du meilleur film étranger. Merci beaucoup Camille. Vous restez avec nous dans un instant, direction Marrakech, direction Jardin Rouge, où 5 plasticiens originaires du fleuve Congo exposent actuellement. À tout de suite. C'est un lieu culturel dont on vous parle régulièrement dans l'émission. Un oued à enjamber pour s'y rendre, un domaine clos, des centaines d'oliviers plantés et au milieu des bâtiments en terre, construction traditionnelle mais aux formes modernes, design. Personnellement, la première fois que j'y suis allé, j'avais l'impression d'être dans un rêve, de vivre quelque chose de tout à fait irréel. Othman El Farsi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup de chance dans la vie. Vous travaillez dans les murs de cet endroit, Jardin Rouge, dans la région de Marrakech. Jardin Rouge, partie prenante de la Foire 1-54 il y a quelques jours. Jardin Rouge, c'est-à-dire la Fondation Montresseau. Il y a deux noms pour cet endroit. Hein. Jardin Rouge, Fondation Montresseau, qui présente actuellement le travail de plusieurs artistes africains. Le point commun, Othman, c'est que ces artistes, cette année, viennent tous de la région du fleuve Congo, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors, une discipline qui aujourd'hui est à sa troisième édition a présenté cette année, après le Bénin en 2018 et la Côte d'Ivoire en 2019, des artistes de la région du fleuve Congo que nous avons accueillis en résidence à Jardin Rouge.
Alors, il y a 5 artistes différents. On peut citer leurs noms. Il y a Hilaire Balou Kouyang Jiko, il y a Serge Diakota Mabilama, Vishwa Mui Lamboué Bondo, Koukan Tadi. Kouka, c'est un habitué hein, de Jardin Rouge. Il vient quasiment depuis le début de la création. Originaire du Congo, il vit à Paris. Et puis il y a Francis Tendalomba.
Tendalomba, effectivement, c'est cela. Alors, effectivement, ces artistes, nous avons commencé à les voir depuis novembre dernier en résidence à Jardin Rouge. Ils ont donc tous présenté leurs travaux dimanche dernier à l'occasion d'Indiscipline qui est dans le cadre de la 154. Cette année, nous avons tenu à présenter des artistes donc de Kinshasa et de Brazzaville. Donc vous avez raison, effectivement, Kouka Ntadi qui lui est originaire de Brazzaville et qui vit et travaille aujourd'hui à Paris. C'est également l'occasion de rapprocher deux institutions qui sont Jardin Rouge et Kinart Studio. Donc avec le parrainage de Vichua Moulambe Bondo, qui donc est le parrain de cette édition et qui lui-même est le fondateur du Kinart Studio à Kinshasa, c'était l'occasion de présenter tous ces artistes ensemble et de finalement faire converser Kinshasa et Brazzaville autour de cette région du fleuve Congo.
Est-ce qu'il y a un point commun, un fil conducteur entre ces différents artistes? Bon, ce sont des artistes plasticiens, ils viennent de cette région. Je crois que pour deux d'entre eux, Mabilama et Lomba, ils travaillent notamment avec des objets recyclés, des objets de récupération.
Alors effectivement, ces artistes-là travaillent avec ces objets-là. Le point commun qu'il y a entre tous ces artistes, c'est donc effectivement comment est-ce que le programme Indiscipline, puisque c'est un programme avant d'être une exposition qui est initiée par la Fondation Montresor, donc invite à explorer cette notion de la discipline dans l'art, de la transmission de la discipline, de surpasser sa discipline, donc Indiscipline qui se lit et en anglais et en français dans le fait d'être indiscipliné et le fait d'être dans la discipline, donc indiscipline.
L'intérêt, c'est que la Fondation Montresor à Pignon-sur-Rue, maintenant depuis des années, elle est connue, reconnue. Vous avez tissé un réseau de contacts et un réseau de professionnels et vous pouvez faire bénéficier à ces artistes de votre propre réseau pour qu'ils puissent se présenter ailleurs, se vendre.
C'est l'idée.
Mmh. Les travaux sont visibles actuellement à Jardin Rouge. C'est jusqu'au 28 avril. Il est possible pour le grand public d'aller voir ces travaux, d'aller voir leurs œuvres?
Alors effectivement, nous organisons des visites sur rendez-vous les vendredis et les samedis, donc sur notre site www.montresor.com, vous trouvez dans la rubrique contact notre adresse mail, nous sommes très réactifs. Donc les travaux sont bien visibles à l'espace d'art Montresor jusqu'au 28 avril.
Et donc vous êtes dans la région de Marrakech, kilomètre 20 de la route de Fès. Il faut prendre sa voiture, il faut faire quelques kilomètres, mais franchement après ça vaut le coup. Le lieu est tout à fait exceptionnel, irréel, comme je le disais au début de cet entretien. Othman El Farsi avec nous dans Bain de Culture. Merci Othman.
Merci à vous, avec plaisir.
Et dans quelques instants, on descend encore un peu plus au sud, la région de Zagora, avec le lancement demain matin d'une caravane culturelle. Ces derniers mois dans les milieux culturels, l'Institut français du Maroc était à la recherche d'artistes et de scientifiques prêts à relever ensemble un défi, partager ensemble une aventure à vivre entre désert, mer et montagne. Le cadre, les paysages sublimes du sud du Maroc, le mode de transport, des dromadaires comme les méharés d'autrefois et la durée, 3 mois, 3 mois d'itinérance des confins du désert jusqu'à l'Atlantique. Pour en parler, nous sommes avec Clélia Chevrier-Kolatchko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'Institut français du Maroc. Alors la proposition, elle était alléchante évidemment. Au final, vous avez sélectionné 20 artistes et scientifiques. Cette résidence itinérante, vous l'avez baptisée Kafila. Expliquez-nous la philosophie de ce projet.
Alors c'est un concept culturel qui est novateur et qui s'inscrit dans le cadre de notre saison 2020 qui avait pour thème le goût du partage. Donc l'idée c'était vraiment de partager les cultures, de susciter le partage aussi entre et avec les artistes, et c'est tout le but des résidences que nous organisons en général dans le Royaume et en France, et puis aussi, cette année particulièrement, de partager la culture au sens large en élargissant les accès possibles, notamment en développant l'offre dans les espaces publics, mais aussi l'itinérance pour aller vers l'ensemble des Marocains. Donc c'était vraiment l'idée initiale de cette caravane.
Alors, je l'ai dit, hein, c'est une caravane composée d'artistes. S'engager pour 3 mois pour tous ces artistes, les participants, ce n'était pas forcément évident. Il y aura des relais. Des artistes vont prendre la caravane en cours de route pour quelques jours, pour quelques semaines, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, la caravane est scindée en 12 étapes et les artistes participeront ainsi à une ou plusieurs étapes de cette caravane. Alors, ils ne sont pas seuls. Hein. C'est une caravane qui est ouverte. Toute personne désireuse de participer également à une de ces étapes est tout à fait invitée à s'y joindre.
12 escales. Vous avez dit à chaque fois, il y a des rencontres prévues avec les habitants des régions traversées pour partager, pour échanger.
Oui, tout à fait. Donc, les résidents qui sont invités dans la caravane sont là à la fois pour apprendre des populations rencontrées, des paysages, et puis pour transmettre leur savoir. Donc chaque fois que la caravane va s'arrêter, ça va être l'occasion d'événements, de concerts, de conférences, donc des événements soit scientifiques, par exemple je pense à des conférences sur l'eau, sur l'architecture de terre au Maroc, des ateliers pour observer les étoiles, ou des événements culturels, que ce soit des ateliers, des spectacles de marionnettes, des concerts, des projections de films.
J'ai vu que mercredi prochain, il sera question d'étoiles et d'astronomie dans la montagne d'Amisli. Le 17 mars à Taghounit, on va parler histoire, en évoquant les premiers peuplements juifs au Maroc, et puis en avril, sur les rives du lac Ouarzazate, d'oiseaux migrateurs. La caravane va passer aussi par Aït Ben Haddou, on va y parler d'architecture en terre, vous le disiez. Donc, en fonction des sites visités, il y aura des choses, j'imagine, en écho avec l'espace naturel, avec la faune, la flore. On rebondit.
Tout à fait, on rebondit. L'eau, c'est la question de la ressource, de la biodiversité. Les étoiles, bah, c'est aussi la pollution lumineuse. Il y a énormément d'éléments à discuter à ces occasions-là entre les habitants et puis les artistes, les scientifiques qui sont présents dans la caravane. L'idée, c'est aussi que de cette caravane sortent des regards changés, mais aussi des carnets de voyage, des œuvres à partager qui pourront ensuite circuler, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs.
Alors, je parlais des paysages sublimes. On parlait d'itinéraires ensemble, les dunes du Maroc, la vallée du Drac, ses palmeraies. Puis ensuite, fin avril, après la fonte des neiges, la caravane de dromadaires va franchir les cols de l'Atlas pour redégringoler de l'autre côté jusqu'à Marrakech. Et là, à Marrakech, il y aura une pause d'une semaine.
Tout à fait, à Marrakech, il y aura un programme particulièrement dense avec également dans la ville un défilé, je dirais, des artistes. C'était pour nous important de marquer cette étape avant de repartir vers l'océan.
L'océan, ce sera donc... On va prendre l'ancienne route des marabouts au pied de l'Atlas jusqu'à Chichawa, puis Sidi Kaouki sur la côte atlantique et enfin Essaouira pour la fin de cette caravane qui aura duré 3 mois et où là, les artistes, les scientifiques vont pouvoir aussi exposer leur carnet de voyage, présenter ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, pendant cette errance. Une errance guidée quand même, on sait où l'on va, mais une errance où l'on a produit, où l'on a créé.
Bien sûr, en fait, chacun des résidents qui a été sélectionné a un projet en tête, que ce soit un auteur de bande dessinée qui va relater au fil de la caravane la vie quotidienne, et dont d'ailleurs les premières cases sont déjà sur nos réseaux sociaux, sur la préparation avant la caravane, mais aussi une créatrice sonore qui veut faire des cartes postales sonores à partir d'expériences des résidents, des photographes, des réalisateurs qui vont en profiter pour peaufiner leur scénario et repérer des décors. Donc tous ces artistes sont vraiment là pour profiter de cette caravane, pour faire mûrir des projets et les développer.
C'est original, c'est très ambitieux, ça fait clairement rêver. Personnellement, j'aurai la chance de partager les premiers pas de cette caravane. Dès demain matin, je serai à la première heure à Zagora, direction la palmeraie de Foum Sguid pour les tout débuts de l'aventure. Et puis je resterai aux côtés des artistes de la caravane de Kafila jusqu'à mercredi soir. Je raconte tout cela aux auditeurs la semaine prochaine dans l'émission ici dans Bain de Culture. Merci Clélia Chevrier-Kolachko.
Merci à vous, bienvenue dans la caravane.
Merci beaucoup. Et c'est à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le MASA, le marché des arts du spectacle à Abidjan, ça commence samedi prochain, ça durera une semaine. 97.2, la fréquence de Médien dans la capitale économique ivoirienne. Et là-bas, Sana et Montassir pour Médien. Ils vont couvrir cet événement, on aura l'occasion d'y revenir. A noter également la Biennale de la danse en Afrique du 20 au 28 mars à Marrakech. À Casablanca, le Gaming Expo du 27 au 29 en présence de joueurs marocains et africains de haut niveau. Et puisque l'on est à Casablanca, dans deux semaines, on devrait commencer à connaître la programmation du prochain Jazzablanca, la 15e édition. Ce sera du 11 au 14 juin. Voilà, bain de culture, c'est terminé. Je ferme mon sac, je pars dans le désert, rejoindre la caravane culturelle pour 3 jours, pour 3 mois. Dimanche prochain, je vous raconte tout ça dans l'émission. Bon dimanche, je vous embrasse. I'm